Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Dans ce journal, des experts médicaux d'Australie appellent à une meilleure approche pour promouvoir la vaccination contre le Covid-19. Israël défend sa stratégie à Gaza alors que des agences humanitaires luttent pour atteindre des centaines de milliers de personnes. Et les Français regoutent à la liberté après la première série de levées de mesures de restrictions sanitaires. Le Premier ministre australien Scott Morrison a déclaré que le gouvernement australien se préoccupe davantage des Australiens qui ont déclaré vouloir se faire vacciner contre le Covid-19 plutôt que ceux qui hésitent. L'Association des médecins d'Australie, la AMA, s'est dit préoccupée que le gouvernement ne met pas assez d'efforts pour convaincre les Australiens de se faire vacciner contre le Covid-19. Mais M. Morrison a confirmé que 40 millions de dollars ont été investis dans une campagne de communication sur les vaccins. Et le Premier ministre encourage également tous ceux qui ont des inquiétudes concernant les vaccins à s'adresser à leur médecin généraliste.
I'd make this point to you. There's around 65% of the population who's very happy to go on the vaccine. So right now the focus is ensuring that those who are very happy to go and do it. And there's plenty of opportunity for them to do that if they're over the 50 at present. And that's why we just simply encourage those who already are happy to go and have that vaccine to go and get that vaccine. And we'll continue to have the conversation with the rest of the population about their concerns that they may have. And the best place to have that discussion is with your GP. And that's what we're encouraging people to do.
Il faut signaler que l'Australie a battu hier le record journalier des vaccinations avec 95 000 doses administrées au cours des dernières 24 heures. Cependant, 1,5 million de doses sont toujours inutilisées dans des cliniques à travers le pays. Et selon l'AMA, l'approche actuelle se concentre davantage sur les mécanismes du déploiement du vaccin plutôt que sur une exploration approfondie des avantages de la vaccination contre le Covid-19. Décédé le 29 avril dernier, Sunil Khanna est le troisième Australien mort de Covid-19 en Inde. Sa mère de 83 ans, qui n'est pas de nationalité australienne, est décédée à New Delhi 24 heures plus tard. Sunil Khanna, qui avait 51 ans, était originaire de l'ouest de Sydney et est décédé à New Delhi après s'être rendu en Inde pour prendre soin de ses parents âgés. Sanjay, le frère de Sunil, appelle le gouvernement fédéral à aider à ramener son père en Australie, car en plus d'être âgé et fragile, il est le seul membre de sa famille encore en vie.
It was really terrible state of affairs for me. I'm trying to keep his spirits high and that I'll try to get him here, but I need help and that's what my request to Australian government is that they allow me to bring my father. He's my last remaining family member alive and I've nobody else.
Et Michael Sukkar, le ministre fédéral en charge des sans-abri et du logement, est critiqué pour ne pas avoir rencontré les opérateurs en charge de répondre aux besoins des sans-abri. Les opérateurs du secteur s'attendent à une forte augmentation du nombre d'Australiens confrontés au sans-abrisme. Jenny Smith, présidente de Homeless Australia, a déclaré à la ABC qu'une aggravation est prévue pour les personnes en situation de précarité en raison d'une réduction de l'aide sociale du gouvernement et aussi d'une pénurie de logements abordables.
We're in a lot of trouble, really. We've got a triple whammy at the moment with the end of the rental moratoriums, reduction in the job seeker payment rate, and I think we're all seeing housing that was already unaffordable become completely unaffordable.
Il faut signaler que des organisations qui œuvrent en faveur des sans-abri disent avoir rencontré le personnel du ministre Sukkar, mais le ministre lui-même ne s'est pas rendu disponible pour les recevoir. Et le gouvernement du Queensland a annoncé une campagne de 7,5 millions de dollars pour attirer des milliers de travailleurs à travers l'Australie vers des emplois dans le secteur du tourisme au Queensland. La première ministre Anastasia Palaszczuk a déclaré à la chaîne Nine Network que l'initiative vise à adresser une pénurie critique des travailleurs dans l'industrie du tourisme, plus particulièrement dans le nord du Queensland.
We're offering jobs in paradise. So it's a $7.5 million program. So if you're anywhere in Australia and you want to come and work in Queensland, north of Mackay, including Cairns, If you can work in our hospitality, if you're a cleaner, if you want to work in tourism, we're offering an incentive to come and support our tourism industry.
L'initiative du Queensland entre en vigueur au mois de juillet prochain et comprend une récompense en espèces de 1 500 $ et une prime de voyage de 250 $ pour les demandeurs d'emploi qui envisagent de déménager dans la région. Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien, a déclaré qu'Israël poursuivra son offensive militaire à Gaza malgré les appels au cessez-le-feu lancés par les États-Unis. À l'issue d'une conversation téléphonique entre les deux dirigeants, donc le président américain et le premier ministre israélien, Joe Biden a indiqué à M. Netanyahu qu'il s'attendait à une désescalade significative dans les prochaines 24 heures. M. Netanyahu dit apprécier le soutien de M. Biden, mais il signale qu'il continuera l'offensive jusqu'à ce que la sécurité d'Israël soit rétablie.
I greatly appreciate the support of the American President, our friend Joe Biden, for the self-defense of the state of Israel. I'm determined to continue this operation until its aim is met to restore peace and security to you, citizens of Israel.
Israël dit avoir mené une nouvelle offensive aérienne à Gaza, ciblant un réseau de tunnels contrôlé par le groupe militant du Hamas. Et l'armée israélienne a également tiré de l'artillerie sur des cibles dans une localité du sud Liban, en réponse à 4 roquettes tirées de cette localité vers Israël. Il faut signaler que plus de 200 Palestiniens et au moins 10 Israéliens sont morts depuis le début des affrontements. Et l'ONU recherche 38 millions de dollars pour répondre aux besoins humanitaires immédiats à Gaza. Selon Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU, l'organisation mondiale est activement engagée avec toutes les parties. Le financement attendu, s'il est obtenu, permettra de soutenir jusqu'à 50 000 personnes pendant 30 jours. L'ONU dit espérer également un arrêt immédiat des hostilités.
We want to see a stop of the fighting immediately. There needs to be a halt to the aerial attacks, to the rockets, to the artillery strikes going from one side to the other. Civilians need to be able to live in peace. We need to get that humanitarian aid into Gaza. For our part, our special coordinator Tor Venislan is actively engaged with all sides on the ground in order to work towards that end.
L'organisation humanitaire de son côté, donc l'organisation humanitaire Oxfam, dit qu'elle ne peut pas atteindre environ 450 000 personnes à Gaza en raison de la menace de mort due aux bombardements aériens. Et en France, hier, les premières mesures tant attendues d'assouplissement sanitaire sont entrées en vigueur, permettant aux Français de retrouver une partie de leurs loisirs et un peu de liberté sur fond de recul de l'épidémie de coronavirus. Après 6 mois de fermeture, et malgré un temps souvent maussade, les terrasses des cafés étaient prises d'assaut partout en France. Reportage sur un retour à la vie presque normale avec Nina Droff pour RFI.
À la porte de Saint-Cloud, les 30 tables disposées devant le bar des Trois Obus sont toutes occupées. Sur le trottoir, des gens font la queue en attente d'un endroit où s'asseoir à leur tour. Pour Marion et Leïla, attablées sous le auvent, la pinte de bière a un goût de liberté ce soir.
On est très contente de se retrouver en terrasse, de voir du monde, des gens, de boire un verre. Ça fait plaisir.
De retrouver une vie normale, franchement, ouais, ça fait du bien. En plus, on a un rayon de soleil, donc c'est super. 7 mois sans prendre un verre aux terrasses, ouais, c'était compliqué.
Et cette attente, c'était aussi celle des gérants et des serveurs. Aujourd'hui, c'est le soulagement qui domine derrière les comptoirs.
On est ravis de rouvrir. On était impatients. Après 7 mois sans rentrer d'argent, ouais. Ouais, c'est un soulagement. Ouais. Tous les habitués ont répondu présent. Ouais. Et puis après, on va prendre un peu de passage comme on est plutôt bien placés.
Et quand à 21h, l'heure du couvre-feu sonne, les clients traînent des pieds pour rentrer chez eux. Parmi eux, Lucille, étudiante.
Là, il faut y aller parce qu'il est 21h05. Mais on aurait bien aimé continuer. En fait, ça fait bizarre de devoir s'arrêter en plein milieu de la soirée. On était bien, on était posés. Et puis, on aurait bien aimé pouvoir poursuivre, quoi.
Mais beaucoup seront de nouveau là demain pour profiter des terrasses sous une météo un peu plus clémente.
Et toujours en France, manifestation à Paris à l'appel des syndicats de policiers 2 semaines après l'assassinat d'un de leurs collègues, Éric Masson. Les policiers qui manifestaient hier voulaient lui rendre hommage et surtout réclamer une justice plus sévère. Alexis Bédude, RFI, était sur place.
C'est la colère emmagasinée ces dernières semaines qui s'exprime. Trop d'agressions des forces de l'ordre, trop de morts. Les policiers présents réclament une réponse pénale plus dure et plus efficace. Jean-Pierre est policier à Paris.
Plus personne n'a peur de la justice. Nous, on le voit chaque jour. avec les individus qu'on interpelle. Ils n'ont plus peur de rien. Ça fait que le quotidien des policiers, c'est devenu très dangereux. Il faut que la justice se mette en marche vraiment, avec une justice rapide, expéditive et sévère.
Les politiques de tous bords sont venus en nombre. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est là pour échanger quelques instants avec les manifestants.
Merci à vous quand même, parce qu'on sait que vous envoyez du bois. On le sait que vous envoyez du bois.
Bah, c'est moi
on
qui...
a la conscience.
C'est moi qui vous remercie, monsieur. C'est nous, monsieur le ministre. Bon courage à vous. Merci, monsieur le ministre.
Le message est passé, c'est le principal pour Romain, venu de Brest pour le rassemblement.
On nous a écoutés, on a essayé d'avoir une tribune, pouvoir être entendu, c'est pas la première fois qu'il y a une marche, j'ai bien peur qu'il y en aura d'autres et il faudra que dans le temps ça puisse perdurer et bien montrer que la population est avec nous et qu'on a besoin d'être soutenu en tout temps et en tout lieu.
Après cette démonstration de force très politisée, les syndicats de police sont satisfaits.
Et on reste en Europe où l'Union européenne appelle les États membres à assouplir les restrictions aux frontières pour les touristes entièrement vaccinés. La mesure ouvrirait les ports de l'Union européenne aux voyageurs en provenance des pays n'appartenant pas au bloc de 27 membres. On se souvient que l'UE a imposé des restrictions des voyages strictes l'année dernière pour arrêter la propagation du Covid-19. Christian Vigan de la Commission européenne a déclaré que l'Union européenne allégerait également les critères pour des pays considérés comme sûrs.
EU ambassadors agreed to update the approach to travel from outside the European Union. The Council now recommends that member states ease some of the current restrictions, in particular for those vaccinated with a new Alpharest vaccine. The Council should also soon expand the list of non-EU countries with a good epidemiological situation from where travel is permitted based on the new criteria agreed today.
Et le président chinois Xi Jinping et son homologue russe Vladimir Poutine se sont entretenus en visioconférence pour discuter d'une série de projets d'énergie nucléaire. L'entretien entre les deux dirigeants avait pour but de montrer les liens qui se réchauffent entre les deux pays. Les médias chinois ont annoncé le début de la construction des réacteurs nucléaires de conception russe dans deux centrales électriques chinoises. Ces unités devraient être mises en service entre 2026 et 2028. Ouverture hier à Abidjan du procès de Guillaume Soro, l'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, et 19 de ses complices poursuivis pour complot et atteinte de l'autorité de l'État. Dans le box des accusés, seules 13 personnes étaient présentes, les autres étant en exil, dont Guillaume Soro lui-même. Compte rendu d'audience à Abidjan, Pierre Pinto pour RFI.
Lors de cette première audience, la défense a obtenu le renvoi pour que lui soient communiquées certaines pièces du dossier auxquelles elle n'a pas eu accès. En revanche, elle demandait aussi un complément d'information et surtout la remise en liberté des accusés, comme l'ordonnait la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dans son arrêt du 22 avril 2020. Sur ces deux derniers points, elle a été déboutée. Maître Souleymane Diallo, du collectif des avocats de la défense.
Les décisions rendues par la Cour africaine, comme toutes les juridictions internationales reconnues par l'État de Côte d'Ivoire, s'impose aux autorités politiques, judiciaires et législatives. Donc vraiment, il est difficile et quasiment indigérable pour nous qu'on n'ait pas exécuté cette ordonnance de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples.
Mais la Côte d'Ivoire dit ne plus reconnaître la compétence de la Cour africaine.
Oui, pour les décisions à venir. Mais les décisions qui ont été rendues pendant qu'elle reconnaissait la Cour africaine s'imposent à elle.
La Cour africaine demandait il y a un an à la Côte d'Ivoire de sursoir au mandat d'arrêt émis contre Guillaume Soro et certains de ses proches et de sursoir au mandat de dépôt pour ceux qui étaient déjà en prison. La Côte d'Ivoire n'a jamais appliqué cette décision. Maître Abdoulaye Ben Meïté, avocat de l'État ivoirien, partie civile.
Est-ce qu'on peut sursoir à l'exécution de ce qui a été déjà exécuté? Donc la décision de la Cour africaine des droits de l'homme qui a été invoquée à l'appui de leur demande de liberté provisoire, pour moi, est non seulement manifestement inopérante, mais encore plus sans objet.
Les débats sur le fond commenceront dans une semaine.
Et retour en Australie où la ANU, l'Australian National University, est la première institution tertiaire du pays à s'engager à réduire les émissions de gaz à effet de serre en dessous de 0 degré d'ici 2030. Brian Schmidt, le vice-chancelier de l'ANU, souligne que l'institution restait engagée non seulement à réduire mais aussi à compenser les émissions et à retirer plus de carbone de l'atmosphère qu'il n'en rejette. Et ce n'est que la deuxième université au monde et la première de sa taille à se fixer un tel objectif. Et un coup d'œil météo à travers l'Australie pour ce jeudi. Perth à 25 degrés, Adélaïde 21, Melbourne 17, Hobart 16, Canberra 16 également, Wollongong 21, Sydney 21 degrés, Newcastle 23, Brisbane 23, Cairns 28 et Darwin 33 degrés. Et à présent, un rappel des principaux titres de l'actualité. Des experts médicaux d'Australie appellent à une meilleure approche pour promouvoir la vaccination contre le Covid-19. Israël défend sa stratégie à Gaza alors que les agences humanitaires luttent pour atteindre des centaines de milliers de personnes. Et les Français regoutent à la liberté après la première série de levée des mesures de restrictions sanitaires.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.